With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour, ici Martin. Je me permets de vous accaparer quelques secondes avant votre émission pour vous dire que j'ai lancé un Tipeee qui vous permettra de soutenir C'est qui le plus fort. Grâce à votre soutien, nous pourrons rémunérer de mieux en mieux les chroniqueuses et les chroniqueurs qui assurent un énorme travail de préparation. Nous pourrons également assurer un rythme hebdomadaire pour le podcast et organiser des enregistrements en public. Tout un tas de contreparties sont disponibles, ça va de la mention de votre soutien jusqu'à la possibilité de choisir un sujet pour un épisode, en passant bien sûr par des t-shirts et des places réservées pour les futurs enregistrements en public. Plus d'infos sont disponibles dans la description de l'épisode et sur la page Tipeee que vous trouverez en tapant Tipeee, T-I-P-E-E-E, plus C'est qui est le plus fort dans votre moteur de recherche préféré. Je vous laisse maintenant profiter de votre bagarre, très bonne écoute.
Mesdames et messieurs,
êtes-vous prêts pour la bagarre ?
C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? L'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris ?
Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast des oreilles espiègles, curieuses, où on s'amuse à faire vivre toutes les oppositions, même celles que personne n'avait demandées. Aujourd'hui, affrontement de gros robots, c'est écrit en majuscule dans mon conducteur, au style radicalement différent et opposé, puisque la bataille à laquelle vous allez assister en ce jour, c'est celle entre Goldorak, également appelé Grandizer, et on va dire l'Eva 01 de la team Evangelion, ou plus généralement, on va se laisser aller à un affrontement entre Goldorak et ses amis et la team Evangelion. Pour arbitrer ce combat, j'ai convoqué un expert qui n'est autre que Antoine. Bonjour Antoine, comment ça va ?
Bah écoute, on va parler de robots géants japonais, donc en ce qui me concerne, ça va très très bien.
Alors Antoine, tu es spécialiste de culture populaire asiatique, tellement qu'on t'a déjà payé pour en parler.
Oui, bah, par exemple chez J1 récemment, et puis en attente de nouvelles aventures maintenant.
Très bien, bah, tu pourras, on reparlera un petit peu de tes projets en fin d'épisode. Mais en attendant, on a un débat hyper important à trancher. C'est qui le plus fort entre Goldorak et l'Eva 01, ou on va l'appeler Evangelion pour simplifier.
Oh, Eva 01, c'est bien, c'est déjà une abréviation, donc ça permettra de le distinguer des autres.
Alors, il est probable que beaucoup de nos auditrices et auditeurs connaissent Goldorak, mais peut-être que Eva 01 ou la team Evangelion l'auraient un petit peu moins connu. Est-ce que tu te sentirais de resituer qui est qui dans cet affrontement ?
Alors Goldorak, plus connu sur les terres japonaises sous le nom de UFO Robo Grandizer, a été créé par Gonagai en 1975. C'est 30 mètres de haut, un peu moins de 300 tonnes, et un alliage graine réputé totalement indestructible. Face à lui, nous avons donc l'Evangelion Unité 01, dite Eva 01, créée par Hideaki Anno en 1995 pour la série Shinseiki Evangelion. Elle mesure aux alentours de 75 mètres, on verra que ce n'est pas très constant dans la série. Et sous les nombreuses plaques de Kevlar qui composent son armure se cachent bien des mystères et des secrets de fabrication. Bref, aujourd'hui, aucun doute, il va y avoir de la tôle froissée.
Carrément, c'est un peu aussi une bataille de génération, une guerre d'époque.
Complètement, il y a 20 ans entre les deux et il s'est passé énormément de choses dans la pop culture japonaise entre ces deux séries.
Très bien. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Comme d'habitude, ou presque, 5 rounds. Le premier a marqué 3 points et le vainqueur du combat.
Voyage en cours.
Alors, premier round, qui est le plus connu, qui a eu le plus de succès commercial?
Alors, c'est marrant parce que tu as choisi Goldorak pour ce duel, ça représente bien quelque chose, hein, c'est que Goldorak, c'est, en France, c'est devenu un véritable doudou transitionnel. C'est considéré à juste titre comme le premier impact de la Japanime en France.
C'était pas le dire.
C'était pas le premier animé japonais diffusé en France. D'ailleurs, Goldorak sur nos ondes est venu remplacer Albator à l'époque. Ce qui est très paradoxal étant donné que Albator est une série qui avait été faite deux ou trois ans après Goldorak. Et Goldorak était arrivé en retard. Il est arrivé en 78 chez nous alors que c'était une série de 75. Le succès est colossal, tu sais, c'est ce genre de succès où la presse généraliste, elle se met à faire des couvertures sur l'œuvre et elle commence à se dire, est-ce que c'est adapté finalement pour nos enfants, est-ce que c'est bien, tout ça. C'est généralement à partir de ce moment-là que tu peux dire, ok, là on tient un phénomène de société. C'est un phénomène qui a aussi touché l'Italie. La légende veut d'ailleurs que ce soit en voyant ce qui se passe en Italie que Jacqueline Joubert s'est dit, bon bah oui, finalement on va donner cette chance à cette petite série. Et du coup, ben, ça a surcartonné aussi dans certains pays nord-africains qui ont une histoire de la japanime très précoce. Et en fait, c'était une aubaine pour les ayants droit japonais parce que, ben, au Japon, ça n'avait pas forcément été la même tisane. On a cette idée un peu fausse que Goldorak a été un échec au Japon. C'est pas vrai, hein, fondamentalement, les scores d'audience, ils étaient tout à fait corrects. Mais par rapport aux ambitions de la série, il y avait en effet un petit arrière-goût amer. Tu vois, j'ai même déglutir rien qu'en le disant. J'ai une pensée pour eux. Parce que, ben, Grandizer, ça vient pas de nulle part. Grandizer, ça devait être le troisième chapitre d'une trilogie majeure pour l'animation japonaise qui s'appelle Mazinger, dont on va avoir maintes fois l'occasion de parler pendant cette émission. Et le problème, c'est que, ben, justement, ça n'a pas été le Mazinger 3 flamboyant que tout le monde avait envisagé. Après un Mazinger 2, entre guillemets, qui s'appelle Great Mazinger, qui avait déjà été un semi-échec parce qu'il n'y avait pas le héros du premier Mazinger, parce que le design était trop proche de Mazinger Z. Donc, il fallait faire table rase, il fallait revenir en force. Et donc, ben, heureusement qu'il y avait la France pour écouler les stocks de jouets qui avaient été produits et qui ne s'étaient pas autant vendus au Japon que qu'ils espéraient. Donc ça, c'était pour Goldorak.
Ouais.
Eva, c'est un peu plus compliqué. Déjà, la diffusion en France, bon, elle s'est faite dans la seconde moitié des années 90 sur Canal+, donc peut-être un peu plus confidentielle. Au Japon, par contre... Aujourd'hui, on en parle encore parce que ben, la série est sortie sur Netflix il n'y a pas longtemps. Ça a été un vrai événement parce que Evangelion est considérée comme vraiment l'une des séries les plus importantes de l'histoire de l'animation japonaise. Au Japon, il y a clairement eu un avant et un après Eva. L'influence d'Eva, elle est colossale. Donc, il y a eu un avant et un après. Et si en Occident, ça n'a pas forcément pété de la même manière, ça a quand même nourri l'imaginaire de beaucoup de gens qui plus tard deviendront des créatifs. Par exemple, Pacific Rim ne serait pas le film qu'il est s'il n'y avait pas eu Evangelion.
Ouais, absolument, absolument. Si on disait que le combat de la popularité était entre la team Mazinger et la team Evangelion, peut-être que Mazinger serait devant, mais si on prend stricto sensu Grandizer, Goldorak, là...
Là, il y a... pas vraiment de débat, pauvre Goldorak, hein, parce que il mérite pas ça. Mais c'est vrai que Eva a... c'est tout le problème, c'est que Goldorak, finalement, a été moins fulgurant que ce qu'il aurait dû être, que ce qu'aurait dû simplement être la somme de ses constituants. Là où Evangelion, à l'inverse, a été révolutionnaire et a donc été bien plus que la somme de ses constituants, parce que Eva aussi est une série qui rassemble énormément de tout ce qui s'est fait avant, dont Mazinger. Donc forcément, sur ce point, ça va être compliqué pour Goldorak de s'en sortir, mais le duel est très loin d'être terminé.
Tout à fait. Bon, ça fait 1-0 pour Evangelion. On dit Evangelion ou Evangelion ?
Techniquement, on dit Evangelion, mais en vrai, on dit comme on veut. tu peux dire Evangelion, je n'irai pas faire le grammaire nazi.
team de potes robots.
Ah.
Alors, qui a le meilleur crew, qui a le meilleur possi?
Là, on va parler du meilleur, c'est-à-dire le mecha design, la meilleure partie de ce genre de série, parce que, après tout, c'est ça qu'on achète après en produits dérivés, c'est les figurines des robots, donc c'est là qu'il ne faut pas se louper. Eva a un positionnement assez particulier, c'est que, en gros, le modèle de l'Eva 01 va être ensuite décliné pour tous les autres modèles, et je dis tous les autres modèles, il n'y en a pas 36 en fait. Il y a l'Eva 0 qui est le test de laboratoire, l'Eva 01 qui est le prototype d'essai, et ensuite il y a les Eva 2 et 3, et encore la 3, on la voit pas beaucoup, qui sont vraiment le début d'une production à plus grande échelle. Mais fondamentalement, ça reste des bestiaux assez similaires. Il y a quelques changements dans la forme, le code couleur n'est absolument pas le même, c'est surtout ça qui les distingue. Mais voilà, grossièrement, t'as vu une Eva, tu les as à peu près toutes vues. ce qui n'est pas inintéressant pour autant. Attention, c'est un design qui est très particulier, qui d'ailleurs, à l'époque, avait effrayé... alors, c'était Bandai, à l'époque, pour faire les jouets. Et c'est finalement Sega qui va dire, bon, d'accord, nous, on veut bien vous les faire, vos jouets. Et ils ont eu le nez creux.
Parce qu'ils sont... il faut le préciser, peut-être, pour les personnes de l'audience qui n'ont peut-être jamais vu. Ils ont un design très filé. Ils sont...
Très filé, très anguleux, très agressif aussi. Ouais. Parce qu'il y a, par exemple... Enfin, l'Eva 01, elle a une gigantesque corne sur le front, donc c'est très agressif. C'est un design étrangement bestial, alors que c'est des créatures parfaitement anthropomorphes, mais il y a quelque chose de très sauvage. On sent qu'il y a quelque chose qui boue à l'intérieur, et c'est peut-être parce que justement ce ne sont pas des robots, mais des corps organiques enfermés dans une armure.
Spoiler.
Non, ça, tu le sais dès le premier épisode, ils te le disent. Techniquement, une Eva, c'est un humain de synthèse. C'est comme ça que la série les présente.
Ouais.
Des corps gigantesques, on injecte le pilote au niveau de la colonne vertébrale et le pilote mentalement depuis l'intérieur. Donc, ça, c'est le design du robot pur. Et ensuite, il y a l'arsenal. Parce que forcément, c'est bien d'avoir un robot, mais si tu peux accrocher des trucs aux bras, aux jambes, au dos, tout ce que tu veux, ça fait des jouets en plus.
C'est cool.
Et ça fait des jouets en plus.
Oui.
Les Evangelion, de façon générale, sur ce point, sont là aussi assez classiques pour des raisons de réalisme, en fait. Et du coup, l'arsenal des Evangelion, c'est un arsenal militaire. C'est des gros fusils, c'est éventuellement un couteau, c'est des armes, quoi. Il n'y a rien de particulièrement délirant dedans. Il y a une lance qui est devenue iconique dans la série, puisqu'elle a là aussi des propriétés surnaturelles, puisqu'on entre dans la partie vraiment très fantastique d'Eva. Mais la partie militaire, c'est des gros canons. Et autant... alors, faut être attentif, c'est parce que... c'est un arsenal classique, mais avec ça, on va faire des scènes cool. On n'a pas besoin d'avoir des armes particulièrement funky pour créer des moments forts. Il y a par exemple cette scène culte d'Evangelion, où dans un seul canon, toute l'énergie électrique du Japon est concentrée pour un seul tir. Ce qui est un moment très fort, parce que c'est un petit peu, tu sais, le Genki-Dama de Dragon Ball, c'est « donnez-moi votre énergie », c'est littéralement ça, parce qu'ils ont besoin d'une telle quantité d'énergie pour percer le bouclier de l'ennemi du jour. Donc, on est dans de l'assez réaliste, de l'assez classique, des modèles qui se déclinent, des armes assez simples. Goldorak, à côté, on est en pleine période, on est dans les années 70, donc déjà, c'est le signe que ça va être complètement foufou.
Ouais.
Et en plus, on est dans vraiment ce qu'on appelle le super robot, donc c'est-à-dire le robot épique, homérique, où vraiment on s'éclate et il n'y a vraiment aucune inhibition en matière de design.
Non.
Déjà, Goldorak, son design, qui emprunte éventuellement beaucoup à Mazinger, qui emprunte aussi à un prototype d'un troisième Mazinger qui avait été rejeté par la prod, notamment du coup le Fulguro Point, le Fulguro Point, mais avec des pointes
inversé
dessus qui tournent. Voilà, c'est ça qui fait la différence par rapport à Mazinger. Parce que là, il y a des pointes pour que ce soit encore plus badass. C'est ça qui frappe beaucoup, parce qu'il est à la fois dans la tradition de Mazinger, et en même temps, il apporte énormément de nouvelles choses. Ses cornes, par exemple, sur son front. Il a un arsenal qui est incroyable, parce qu'il a énormément d'attaques différentes qui s'activent avec une commande vocale. Donc ça, quand t'es môme, c'est extraordinaire.
J'ai l'impression que c'est incontournablement dans l'animation japonaise. Il faut toujours dire le nom de l'attaque.
Evangelion ne le fait pas, typiquement.
Ouais,
mais le simple fait qu'il y ait des patterns d'attaque, qu'il y ait un cri pour le déclencher, ce qui est quelque chose... Alors, j'aime bien voir ça comme une extension du Ki-Ai, qui est une sorte de cri dans beaucoup d'arts martiaux asiatiques. Là, l'excuse, c'est juste qu'il faut une commande vocale pour les activer, ce qui est génial en soi.
Oui.
Et ça va créer justement tout un vocabulaire qui va devenir iconique. Enfin, je crois que c'était l'an dernier, Alexandre Astier a balancé le mot cornofulgure en plein Burger Quiz. Tu vois, on en est là, on est 40 ans plus tard.
Ouais.
C'est même plus. Donc, il y a déjà tout ça. Il y a tout l'arsenal, du coup, qui est toujours très créatif visuellement, parce que c'est ça aussi, il faut créer des moments d'animation. Quand tu vois, justement, les deux lames sur les épaules de Goldorak qui sortent des épaules et forment une double hache, c'est un moment très fort pour les spectateurs. Ouais. Et en plus de ça, parce que, comme si ça ne suffisait pas, parce qu'il faut tenir 70 épisodes quand même, donc il faut parfois rajouter, on va créer d'autres plus petits véhicules qui sont... 4, même si le quatrième on le verra qu'un épisode, qui eux ont déjà leur propre propriété, donc sont déjà légitimes en tant que jouets à part, si tu veux, et ont plus la capacité de s'assembler avec Goldorak. Et là, ça devient rigolo. Ce qui avait été aussi une demande du fabricant de jouets, parce qu'à l'époque, les jouets qui s'assemblent ou qui se transforment, c'était très rare. Il y avait une autre série qui passait au même moment que Gret Mazinger à l'époque, qui s'appelait Getter Robot, où là c'était le premier robot issu de 3 vaisseaux qui s'assemblaient. Le problème c'est que l'assemblage était tellement absurde, avec le robot qui se déformait dans tous les sens pour prendre sa forme, que c'était pas possible à reproduire en jouet. Par contre, à côté de ça, il y a eu un autre robot qui s'appelait Rising, qui lui était le premier à pouvoir se transformer en jet, et du coup le jouet se transformait en jet. Et là, le fabricant de jouets, il a fait « Ouh, ça j'aime bien, il va nous falloir la même chose ». Donc Goldorak, qui de base est assemblé dans une soucoupe volante, puisque UFO robot, qui en plus peut sortir du coup de sa soucoupe et ensuite ça s'enlève avec d'autres robots. Je pense que les marchands de jouets là ils
étaient contents.
Et puis du coup ça fait vraiment quelque chose de très créatif et de très réjouissant, je trouve.
Oui, donc, très très réjouissant.
Pour moi, sur ce point, c'est clairement le symbole d'une époque. Aujourd'hui c'est ça me paraît beaucoup plus difficilement concevable, ce genre de choses. Peut-être dans d'autres sagas avec des super-héros en spandex coloré par exemple, où là ça existe toujours, les combinaisons de robots. Mais sinon, c'est...
Ah, il y a Gurren Lagann qui nous a un peu replongé dans cette ambiance, mais avec un twist, quoi.
Bah, Gurren Lagann, c'est 2007, hein, déjà.
Oui, mais bon.
On a déjà un petit coup dans l'aile.
Ouais.
Mais sur ce point, clairement, Goldorak, c'est un régal quand tu aimes le mecha design. C'est typique de cette époque où vraiment tout s'assemblait, tout s'emboîtait, tout se transformait.
Ça me permet d'en placer une, et je pense que ça reviendra un peu en filigrane dans cet épisode. Goldorak ou Grandizer, c'est une série globalement feel good, et on le voit dans le oui, non, mais ouais, ils ont une vie de merde, mais
Gret Mazinger était la série légère, et ça avait déçu à cause de ça, et là c'était le retour à quelque chose de plus tragique, mais on n'est pas dans Evangelion,
mais globalement ça va. C'est quand tu vois Goldorak, t'es content, tu dis ah, papa est là, il va botter le cul des vilains. Bon, Evangelion, c'est tout le contraire. C'est quand on voit les robots, ils sont malaisants. Tu disais qu'ils étaient un peu bestiaux. Ils mettent mal à l'aise.
Ils sont même horrifiques par moment. Il y a une scène culte d'Eva. Il y a beaucoup de scènes cultes d'Eva, je pense.
Comme la série est courte, il y a quasiment que ça aussi.
Et en fait, il y a une scène d'Evangelion. En fait, même dès le premier épisode, je vais même pas vous spoiler une autre scène. Juste dans le deuxième épisode, dans le deuxième épisode, la première bataille, il y a un moment où Leva est mise KO, le pilote est mis KO, et malgré ça, Leva se réveille d'elle-même, elle a les yeux qui brillent, et on voit une bouche qui s'ouvre et elle pousse un hurlement. C'est terrifiant de se dire, moi je pensais que j'étais là pour un robot géant, et en fait non, j'ai une bête enragée devant moi qui pousse des cris en allant démembrer son adversaire.
C'est assez terrifiant.
Je me souviens, elle pour battre l'adversaire dans cet épisode, c'est un adversaire qui est organique aussi, donc elle arrache une sorte de grosse griffe qu'il y a sur le torse, et elle s'en sert pour éclater à plusieurs, avec plusieurs coups successifs, le torse du monstre. C'est d'une violence qui est inouïe.
Donc Goldorak, par sa bonhomie et son côté très très design, très très méca design, il y en a pour tout le monde.
Et son absence d'inhibition, quoi. Il y a à boire et à manger, peu importe ce que tu veux, tu vas le trouver dans Goldorak.
C'est ça. Donc grâce à ça, il égalise.
Il égalise le score.
C'est une question de vie ou de mort. Refais ton retournement.
On va essayer.
Retournement.
Alcorax suit Goldorak. Et en cas d'urgence, Alcorax s'approche en Razbot. Nous touchons à la solution.
On a réussi. C'était un jumelage de toute beauté.
De toute beauté.
Qu'est-ce qu'ils ont inventé ?
Corneau, Fulgur, Mortanium.
Allez, Alcor, on réattaque ensemble.
La vie cogire.
Victorant.
C'est terrien
du diable ont encore perfectionné Goldorak. Je ne serai jamais l'invincible du cosmos.
Troisième point. Quel pilote a la personnalité la plus intéressante entre Shinji et Actarus ? Alors, on n'a pas trop parlé encore des pilotes. On aurait pu parler d'autres pilotes de part et d'autre, parce qu'il y a beaucoup d'autres pilotes qui sont intéressants dans Evangelion. Un peu moins dans Goldorak.
Concentrons-nous davantage sur le personnage principal.
C'est plutôt des sidekicks et des faire-valoir dans Goldorak.
Ce qui a fait hurler le Japon, parce que le sidekick... Alcor d'Actarus, c'est le héros de Mazinger Z.
Eh oui.
Ou la boulette.
Ça l'a foutait mal de le faire revenir dans une petite soucoupe volante un peu foireuse.
Sans aucune arme.
Bon, après, il a récupéré son Alcorax, ça allait mieux. Shinji d'un côté, Actarus de l'autre.
Alors,
Qui est le plus intéressant?
Ben, honneur au vainqueur du round précédent, on va parler un petit peu d'Actarus. Alors, Actarus, on l'appelle Actarus, mais... Il faut bien comprendre que tout le lexique de la série a été énormément francisé chez nous, enfin francisé, adapté, avec des noms qui soit évoquent des étoiles, soit qui évoquent de la mythologie. Donc Actarus, tu vois, ça a une consonance beaucoup plus occidentale que, j'allais dire non en l'occurrence, puisque le personnage en japonais s'appelle Duke Fleet, ce qui est le nom le moins japonais de l'univers.
Oui, pour le coup.
Parce que justement, ce personnage de Duke, qui est en fait une reprise directe d'un court-métrage, enfin d'un court-métrage d'une demi-heure, donc ça fait un beau court-métrage, qui était un court-métrage, enfin un métrage test pour potentiellement une troisième série Mazinger, est un prince d'une planète lointaine, réfugié après la destruction de son monde par un méchant empire qui, ensuite, commence à lorgner du côté de la Terre. Donc, Actarus est un personnage au sang bleu, pas littéralement, hein, je vous rassure, c'est un prince, le prince de fort, même
le prince de fort, tout à fait,
surnomme dans notre version, réfugié sur Terre avec son Goldorak, parce qu'il voulait pas que Goldorak tombe entre de mauvaises mains, parce que c'est le méca le plus puissant de l'univers.
Il avait pas, je croyais qu'il l'avait piqué au méchant, non, c'est...
En version originale, non, il a piqué Goldorak pour éviter qu'il tombe entre les mains de l'ennemi.
D'accord.
Ce qui serait catastrophique, justement.
Oui, bah oui, parce que...
et du coup, Duke a cette particularité par rapport à tous les autres personnages de Grandizer, d'être un personnage qui est typé pas japonais. Sous-entendu, typé occidental, c'est-à-dire qu'il est blanc, pas blanc comme le sont les personnages de Japan, non, qui ne sont pas blancs. Lui, il est blanc, il a des boucles châtains, il a un design... Alors bon, en l'occurrence, il s'est planqué dans le seul ranch de tout le Japon, mais il a un design qui fait très cowboy, qui fait très... Tu sais, les pantalons...
Les
pantalons de cowboy avec...
La veste à franges.
La petite veste à franges, c'est extraordinaire, ça. Et...
Il fait du cheval.
Ouais, il fait du cheval. Et du coup, c'est un personnage qui est très occidental et qui, par bien des aspects... rappelle un petit peu cette image de hippie yéyé des années 60-70, surtout aux États-Unis, mais pas que. Et enfin, c'est un personnage, quand tu le vois, il est sous un arbre avec sa guitare au milieu des petites fleurs et il joue des petits morceaux parce que la paix c'est bien, la guerre c'est mal.
Il est un peu mélancolique quand même.
Il est très mélancolique, mais en même temps, il a un petit peu tout perdu, le bonhomme.
Il a une vie de merde, il faut le dire.
Et il a pas envie que. Mais il est un petit peu poussé au combat. Parce qu'il n'a pas envie que la Terre subisse le même sort, et il s'est attaché à la Terre, et il s'est attaché, citation française dans le texte, à la Terre verte. Tu vois, il aime la nature, les petits oiseaux, c'est pas la société capitaliste qui va défendre, non, c'est la Terre verte. Donc c'est vraiment un hippie, quoi. Shinji, par contre, c'est pas un hippie, c'est ce qu'on appelle au Japon concrètement un hikikomori. Donc c'est un jeune garçon qui est dépressif, qui est renfermé, qui est complètement isolé, même. Et qui vit sur une terre qui a déjà bien morflé parce qu'elle s'est tapée... Alors, on est... Evangelion, ça se passe en 2015. Donc, c'est le 2015 du futur du passé. Sur une terre qui a connu un grand cataclysme, qui a zappé intégralement l'Antarctique, tué la moitié de l'humanité, donc 3 milliards de personnes, et désaxé la Terre. Bonne ambiance. Et Shinji, au milieu de tout ça, il essaye juste de rester dans son coin et de vivre sa vie. Et encore vivre sa vie, c'est un bien grand mot. Et puis, un jour... son père qui l'avait abandonné le contacte, le fait venir à son travail puisqu'il travaille pour une agence gouvernementale top secrète et il lui dit monte dans le robot parce qu'il a construit un robot géant et qu'avec ce robot géant il doit affronter des monstres terrifiants et sauver l'humanité.
Shinji monte dans le robot,
c'est devenu un running gag. Et Shinji, évidemment, en fait, c'est un personnage qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Et qui essaie juste de comprendre en fait ce qu'on attend de lui, comprendre quelle est sa place au milieu des gens, et c'est en fait ce dont parle la série.
C'est pas un héros.
C'est pas un héros, c'est un anti-héros total. Contrairement à Actarus qui a un côté anti-héros parce qu'il veut pas se battre, ouais. Mais quand il faut y aller, tu vois, il a sa séquence de transformation bien cool, il a la belle tenue très chevaleresque, ouais. Et il y va volontiers.
Il hésite pas longtemps quand même.
Il hésite pas longtemps. Shinji, il passe 26 épisodes à dire non, je veux pas y aller.
Dans un épisode entier dans le métro à écouter son Walkman.
Enfin, au moins. Donc, on a deux héros qui ont pas forcément envie de se battre, mais qui y sont contraints, l'un plus que l'autre. La différence, c'est que Shinji est sans doute beaucoup plus développé, puisque en fait, c'est une série qui est très introspective, hein. C'est vraiment une série qui parle de ça. Anno, donc le réalisateur d'Evangelion, met beaucoup de lui-même dans cette série, parce que lui-même, c'est un otaku dépressif chronique, hein. Même là, il l'est encore. Et donc, à la fois, il y a ce côté... Il essaye de céder lui-même en parlant de Shinji, en le poussant vraiment à aller vers les autres. Et en même temps, il y a un côté... je parle aussi à tous les otaku qui regardent la série. Ouais. En leur disant, sortez dans le monde réel, ce n'est qu'une série. Ce n'est qu'une série parmi d'autres. Le monde réel, c'est pas ça. Et finalement, le bonheur qu'on a à avoir à discuter avec des gens vaut bien la souffrance qu'on peut peut-être aussi ressentir, parce que tout ne se passe pas toujours très bien.
Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur le rapport de Shinji aux femmes?
C'est un rapport très compliqué. aux femmes, il y a un rapport aux gens de façon générale qui est très compliqué dans cette série. Hein. Enfin, sa mère est morte, mais peut-être pas totalement.
Oui,
son père le manipule.
C'est compliqué.
Son père est ultra malsain.
Tout est très 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 compliqué. Dans
tout est très compliqué. Tout est très.
Ouais. J'ai pas tout compris d'ailleurs.
Ah non, mais c'est normal. C'est normal. Et en fait, c'est. On va avoir l'occasion d'en parler plus en détail dans le point d'après, mais c'est une série qui vraiment s'enfonce de plus en plus. Au début, elle se fait vraiment passer pour une série avec des robots géants, avec en plus une inspiration très super robot, parce qu'ils sont vraiment très puissants, ils sont vraiment très cool, ils sont très badass, avec des jeunes filles sexy dans des combinaisons moulantes, parce qu'on aime bien les jeunes filles sexy, surtout quand elles ont 14 ans. Yeah. Et petit à petit, la série s'enfonce dans la dépression la plus totale, dans le malaise, et enfin... Il y a un film qui conclut la série Evangelion qui s'appelle The End of Evangelion, qui est sans doute l'un des plus grands traumatismes que personnellement j'ai vécu en matière de japanime.
Putain, tu m'étonnes.
Entre Asuka qui se fait dévorer vivant et d'autres choses joyeuses. Non mais
la scène de l'hôpital, quoi.
La scène de l'hôpital, j'allais venir, quoi. On peut en parler de cette scène.
Ah bah oui, je t'avoue, j'avais envie qu'on en parle.
Voilà. Alors, on resitue dans le contexte. Donc, on est au début de The End of Evangelion. Shinji est au fond du trou. Genre vraiment, c'est. Et la seule amie qui lui reste, c'est Asuka. Seulement, pas de bol, Asuka, elle est dans le coma. Il va la voir à l'hôpital et dans l'espoir que peut-être elle réagirait à quelque chose, elle réagirait à sa présence ou même juste quelque chose pour lui prouver que il n'est pas tout seul. Il est tout seul dans la chambre, il commence à la secouer un petit peu en lui disant allez, s'il te plaît, Asuka, tu vois vraiment. Donc déjà, il s'en prend physiquement à elle. Il y a un problème. Et malencontreusement, le chemisier d'Asuka se déboutonne. Et elle avait pas de soutien-gorge en dessous.
Shit happens.
Et la scène vire vraiment au macabre quand Shinji, du coup. Alors là, c'est vraiment très très bien réalisé. C'est tout en hors-champ, tout se fait au bruit. Mais tu vois bien qu'il a fermé la porte de la chambre à clé. Et t'entends, tu sais, des bruits d'expiration, genre... Et juste, tu vois juste un plan, tu vois le plan de la main de Shinji avec une sorte de fluide blanc dessus.
C'est horrible.
C'est ça. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « je me dégoûte ».
Oui, bah oui. Alors, oui.
C'est brillant et en même temps, c'est horrible.
C'est ça.
Il est venu chercher du réconfort, il en ressort encore plus détruit. Et en même temps, il s'est pougné en la regardant parce que c'est vraiment la destruction mentale totale de Shinji. C'est
une série qui fait pas du bien.
C'est ça. Et en fait, on en a pas parlé, mais ce qui fait la puissance d'une Evangelion, c'est une sorte de, c'est pas une arme en fait, c'est une protection qu'on appelle un 80 field pour Absolute Terror Field, qui permet en fait à Evangelion de se protéger de beaucoup de choses. Et en fait, cette barrière, c'est littéralement la barrière de l'ego, c'est-à-dire la barrière qui me protège, moi, de ce qui est autre. Donc forcément, l'état mental du pilote joue beaucoup sur le bon fonctionnement d'une Eva. Et là, j'aime autant te dire que Shinji, niveau 80 field, il est très très bas. Son ego est en train de céder, mais monumentalement.
Bon, du coup, on a pas mal digressé, mais je trouvais que c'était important d'expliquer un peu dans quel univers on était d'un côté et de l'autre, quoi.
Bah, ça fait une transition toute trouvée pour notre prochain point, mais avant, ouais. Du coup, je pense qu'on peut décerner la petite palme à Shinji parce qu'il nous a fait bien digresser.
Alors, graisser. Oui, donc tu veux dire par là qu'on accorde le point à Shinji ?
Je pense.
Oui, oui, c'est alors c'est à la fois mérité et à la fois on n'aurait pas envie parce que c'est pas un personnage attachant, quoi. Mais c'est un personnage intéressant.
Alors, moi, je le trouve très attachant parce que j'ai vraiment envie de lui venir en aide. C'est un garçon qui est désespéré, qui a désespérément besoin d'un câlin, d'amour, et qu'on le protège, et on l'envoie sur le champ de bataille, en fait.
Oui, c'est vrai.
C'est horrible. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que Shinji est la star. La série parle de lui.
Ouais.
Là où Goldorak parle de Goldorak avant tout.
Oui, oui, oui.
Tu vois la différence qui est un petit peu subtile.
Non, mais...
Shinji est tellement le héros de la série que lorsqu'il faudra finir la série, et donc là on va vraiment enchaîner avec la production, les designs, Anno va volontairement zapper toute la partie mecha, toute la partie super robot, et nous livrer deux épisodes qui font encore débat aujourd'hui, où tu as juste Shinji sur une chaise, sur fond noir, qui résout ses problèmes internes.
Mm.
On est dans la métaphysique totale, quoi.
Ah oui, 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 oui. Il y a une chose qui est sûre avec Anno, c'est qu'il brosse pas son public dans le sens du poil. Pour Evangelion, on va passer au quatrième point. Qui est le plus BG, qui est le plus swag, bref, qui est le plus beau, quoi.
Ouais, et là ça va pas être facile parce qu'on est vraiment sur deux salles, deux ambiances, en fait.
Ouais,
c'est parce que d'un côté, alors on va commencer par Goldorak cette fois-ci. J'aime bien commencer par Goldorak.
Vas-y.
Goldorak, c'est vraiment. On est dans une période vraiment classique. On est dans la continuité de Mazinger, on est sur une série à très gros budget pour cette époque. Ce qui fait qu'il y a pas mal de séquences qui ont vraiment de la tronche pour l'époque. Tu sais, il y a ce classique dans des séries qui sont peu feuilletonantes, où vraiment, tu sais, c'est presque anthologique. Hein,
oui.
C'est une série, quoi. C'est un monstre par semaine, donc un nouvel ennemi par semaine. Structure des épisodes qui ne bouge très peu. L'intrigue en elle-même, elle avance très peu aussi, du coup.
Oui.
Ce qui fait que tu peux arrêter une série très facilement.
Oui, oui, tu peux regarder dans n'importe quel ordre, à peu près, ça change pas grand-chose, quoi.
Voilà, faut juste surveiller de temps en temps quand ils te rajoutent un nouveau jouet, mais sinon, voilà. et du coup, t'as pas mal de séquences qui sont réutilisées d'un épisode à un autre, typiquement. Comme la séquence où Actarus plonge, se métamorphose et monte dans Goldorak. Quand il monte dans le robot, concrètement.
Lui. Fait pas chier, lui.
Ouais. On est dans quelque chose qui est là aussi hyper funky, qui est juste un prétexte à faire de la belle animation et des trucs un peu foufou. Enfin, donc on a vraiment deux séries avec des mentalités très différentes. Goldorak, on l'a dit, c'est une série en plus de 70 épisodes en plus, où vraiment on a une formule de monstre de la semaine, donc toutes les semaines un nouveau monstre, qui est généralement... un robot géant inspiré d'un design, avec un design de soucoupe quelque part. Ou généralement plutôt une soucoupe qui se transforme en monstre robot. J'en avais retenu un que j'aimais beaucoup, qui était une sorte de robot géant, avec deux sortes de grands tentacules. Et en fait, les deux tentacules qui ont deux lames au bout, ils s'enroulent sur eux-mêmes tout autour du robot, et en fait, en s'enroulant, ils prennent la forme d'une soucoupe volante.
Ah oui, oui, oui.
Donc on a vraiment la thématique UFO quelque temps là. Eva, c'est totalement différent. Déjà, c'est une série de 26 épisodes. Pour la série de base, parce qu'ensuite il y a eu un reboot en 4 films, on est sur une série ultra feuilletonnante, et on est sur une série qui est même pas de différence entre classique et moderne, c'est on joue avec les codes. On crée pas les codes, on ne respecte pas les codes, on joue avec.
Ouais, ouais.
Pour te donner une idée, la première bataille, elle arrive à la fin de l'épisode 2. Et pas dans le premier épisode comme on pourrait s'y attendre. C'est-à-dire que fin du premier épisode, Leva est lancée pour aller se battre, début du deuxième épisode, c'est le début du combat, et puis... hop, flash forward, on se retrouve après la bataille. On voit le héros qui essaye de se remettre de ce qui l'a pris dans la tronche et qui essaie surtout de se souvenir parce qu'il a un peu trauma, donc il est un peu oublié. Et c'est quand il se souvient que là, on a la séquence de la bataille et qu'on voit ce qui se passe. Il y a beaucoup d'épisodes d'Evangelion où il n'y a pas de bataille. Ou même si parfois il y a un ennemi, parce qu'on va en parler aussi des ennemis, il ne va pas prendre une forme qui va permettre une bataille. Donc les ennemis d'Evangelion, ce ne sont pas des robots géants qui viennent de l'espace, ce sont des sortes de créatures surnaturelles qu'on appelle des anges, qui ont cette particularité de commencer un petit peu comme ton kaiju classique, c'est-à-dire vraiment une grosse bestiole qu'on n'arrive pas à arrêter. Et petit à petit, ça part vraiment dans tous les sens. Tu vas avoir, par exemple, déjà en termes de design, donc tu vas avoir un qui est juste un gros...
Une sphère, non ?
Alors, tu vas avoir la sphère, mais avant ça, parce que lui, il est encore plus particulier, mais avant ça, t'en as un, c'est une sorte de... c'est de forme géométrique basique,
oui, oui.
En fait,
oui, oui,
qui flotte.
Oui.
Et c'est lui qui, c'est pour celui-là d'ailleurs qu'il va falloir rassembler toute l'énergie électrique du Japon parce que tu ne peux pas l'approcher en fait. Donc c'est très cérébral, il y a toujours une façon de combattre différente. Et ensuite, en effet, comme tu l'as dit, il va y avoir vraiment des évapes que tu peux juste même pas affronter et qui vont même pas se résoudre de cette manière-là. Tu vas avoir un ange qui va être microscopique et qui va du coup prendre plutôt une forme de virus informatique qui va infiltrer les ordinateurs de l'organisation qui a créé les évas. Tu vas en avoir un qui est justement une sorte de sphère, sauf qu'en fait, l'ange, c'est pas la sphère, c'est son ombre. Comment tu combats une ombre ? Tu ne la combats pas. Et en fait, elle va être détruite de l'intérieur. Enfin, c'est un micmac assez bordélique. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt, c'est que les Evas sont peut-être en troisième place des trucs intéressants d'Evangelion, après les personnages et les anges. Je trouve, moi, que j'y trouve beaucoup plus mon compte en tant que fan de Kaiju qu'en tant que fan de Mecha.
Oui. Bah d'ailleurs, Anno est le réalisateur de Shin Godzilla, qui est probablement le Godzilla le plus ambitieux et le plus intéressant en termes de storytelling et de scénario.
C'est le meilleur Godzilla depuis 1954, on peut le dire. Et puis il va bientôt bosser sur Ultraman, puisqu'il a été confirmé comme scénariste de Shin Ultraman. Donc là aussi, tu sens que c'est quelqu'un qui a été biberonné au kaiju et au gigantisme. Donc on est vraiment sur deux séries très différentes. Goldorak qui... Comme c'est une série assez classique, elle a une réal qui est classique avec un bon budget quand même, mais du coup une qualité constante. Eva, c'est inverse, ils ont cramé assez rapidement le budget parce que c'est le studio Gainax qui a fait la série, c'est des dingos d'animation. Anno, c'est un prodige de l'animation, on peut le dire. Enfin, tu vois ce qu'il faisait à la fac d'art d'Osaka à 19 ans, c'était effrayant. Donc ils ont cramé très vite le budget, mais du coup tu as des séquences qui sont magistrales. Et du coup, pour compenser ces séquences très coûteuses, il s'est créé toute une véritable esthétique qui va être prise ensuite par tout le monde, même parfois parodiée, parce que c'est aussi ça le but, où on va jouer beaucoup plus sur la composition de l'image, le hors-champ, le contemplatif, avec des plans... Enfin, t'as un moment iconique d'Evangelion, encore un, c'est le troisième que je cite là, où tu as juste deux personnages fixes dans un ascenseur, et ça dure, je crois, une minute. Et... En fait, cette scène, elle a été un peu critiquée, mais elle est très bien parce qu'elle sert à mettre en avant un malaise entre les deux personnages qui sont présents là. Et du coup, c'est une très bonne idée parce que, une bonne idée, tu sais, c'est une idée qui répond à un impératif esthétique et un impératif technique. C'est une idée qui est, pour ainsi dire, bonne et pas chère. Et donc là, typiquement, on y est. C'est un peu extrême comme démarche, mais de toute façon, Evangelion est une série d'extrêmes. C'est ça qui la caractérise aussi. T'as aussi cette scène où Shinji doit tuer quelqu'un. Donc tu vois l'Evangelion qui tient la personne en question, et c'est un plan fixe de 2 minutes 30, avec juste de la musique classique en fond, parce que Shinji n'arrive pas à le faire, et pas d'autres plans pour mettre ça. Non, 2 minutes 30 comme ça, donc là on est vraiment dans les extrêmes, mais de façon générale, il y a vraiment une esthétique du contemplatif, du posé, du mélancolique, ce qui correspond très bien aussi finalement au ton de la série. Et c'est ça aussi qui fait que je pense Eva est bien davantage une série d'auteur dans sa façon dont elle se joue des codes et dans la façon dont justement elle arrive à faire ses trucs totalement indépendamment de ce qu'on pourrait attendre d'elle. Là où Goldorak finalement elle répond à des impératifs, donc elle doit rester classique, etc.
Tout à fait. Je bois tes paroles, je les écoute, je les bois, je repense à mes deux séries, je me dis ouais, je suis d'accord.
J'ai plus envie de me les refaire.
Là, on a parlé de l'image et t'as commencé un petit peu à parler de la musique par rapport à ce plan fixe où,
avec
où Shinji tient son
ennemi. Un petit peu de musique classique parce que
n'est pas
cool.
Vraiment un ennemi. Enfin, c'est, c'est vrai que dans les deux cas, il y a une utilisation de la musique qui est hyper importante dans les deux séries. Mais chacune à leur manière, c'est-à-dire que... Alors, toutes les deux ont une musique originale qui déchire, si je puis me permettre.
Alors, pas que original d'ailleurs dans les deux cas.
Alors,
parce que on a Evangelion qui reprend quelques thèmes du répertoire classique.
Ouais, c'est ça.
Notamment l'hymne à la joie.
Ouais. D'une manière complètement hallucinante.
Complètement hallucinante. C'est l'apocalypse, mais on va te mettre l'hymne à la joie. Quasiment.
C'est complètement fou ce passage.
Et Goldorak à côté a beaucoup de morceaux originaux, bien sûr, mais il va aussi reprendre à d'autres séries, notamment au fameux métrage qui a été à la base du projet, mais qui est officiellement pas lié. Mais aussi à du Mazinger, ce qui accentue du coup la perception d'une continuité, parce que la continuité de Goldorak comme étant le troisième épisode de Mazinger, c'est un vrai débat aujourd'hui encore, puisqu'il y a plusieurs versions, il y a plusieurs variations. Est-ce que Goldorak est vraiment Mazinger 3? Du coup, c'est un débat que nous ne résoudrons pas aujourd'hui, clairement,
non.
Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse de toute façon. Et il y a même, je crois, quelques morceaux dont on n'a pas forcément exactement la trace, mais toujours est-il qu'en effet, de façon générale, on est sur deux bandes originales qui ne contiennent pas que de l'original, et quand elles en contiennent, c'est en effet des travaux très différents. Goldorak, c'est une BO composée par Shunsuke Kikuchi, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait.
Qui est un illustre compositeur de cette époque. Enfin,
un immense.
Ouais. Il a composé notamment pour beaucoup de Kamen Rider, il a composé pour du Dragon Ball, notamment.
Oui. Bah, tous les thèmes les plus connus de Dragon Ball Z et Dragon Ball, ça vient de lui.
C'est ça, il a fait du Getter Robot, enfin, c'est vraiment quelqu'un de cette époque. Pour Eva, on est sur le compositeur récurrent de Anno, sur un compositeur récurrent de Anno, qui est Shiro Sagisu, que j'appelle le professeur Tournesol très affectueusement, parce que quand tu le vois, il a vraiment un look très flashy, très, très fashion, ouais, très gentil d'ailleurs comme monsieur. Je l'avais rencontré à Japan Expo il y a quelques années de ça. Lui, c'est pareil, il est bardé la moitié du temps en France, donc si vous vous baladez, peut-être que vous tomberez sur lui. Et donc, lui, il propose des trucs qui mélangent du rock et de l'orchestral, la grosse guitare saturée et en même temps des gros chœurs bien épiques. C'est à la fois pour évidemment le côté très épique et parfois aussi pour le côté très malsain.
Bah ouais, ouais.
C'est
ouais.
Religieux forcément parce qu'on affronte des sortes d'anges, donc il y a aussi des chœurs un peu angéliques et en même temps très déformés, très tordus, très. C'est très particulier et. Il a notamment signé un morceau que je trouve extraordinaire et je ne peux pas ne pas en parler, c'est le morceau phare de The End of Evangelion, qui est le morceau pendant lequel se déroule l'apocalypse. Et lui, il te chante une petite chanson qui est limite bossa nova dans l'esprit, et qui raconte de façon très belle une personne qui, voilà, on va en finir, que tout est fini de toute façon, ça n'a plus aucun sens. Et toi, t'es là genre, ah, mais ça... C'est très malsain comme ambiance. Il y a un rapport aussi dans Evangelion. Evangelion aime beaucoup faire ça, c'est te mettre des morceaux très doux sur des scènes ultra violentes. Donc jouer vraiment sur le registre anempathique, comme par exemple ce moment où l'Eva 01 va massacrer l'Eva 03 qui a été possédée par un ange. Et par-dessus, c'est une chorale de Chine enfant qui disent « Au revoir, c'était bien, on s'est bien amusé ensemble. » Non, ne faites pas ça. On peut pas ne pas parler des génériques par contre.
C'est vrai, parlons des génériques.
Ça commence à faire long, hein, ce conducteur, mais
on
dégraissera, je pense.
Ouais, on verra.
Mais, je te laisserai parler des génériques de Goldorak, parce que je pense que tu as un affect très particulier à cela, mais...
Non, vas-y.
Mais déjà, le générique d'Evangelion, c'est... Tu vois Born to be Alive de Patrick Hernandez ? Le mec gagne 1500 balles par jour de droit dessus, depuis les années 70. Je pense que Zankoku Natetsu no Tetsu, donc le thème principal d'Evangelion, c'est pareil, il n'a pas quitté... les top 5 des karaokés depuis 95. C'est un thème, vraiment, c'est pareil, c'est un thème qu'on associe très généralement avec l'idée de générique d'anime. C'est un peu un alpha et un oméga. Goldorak, forcément, c'est du générique de cette époque, qui a été en plus repris, ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup ça, à cette époque, c'est quand les Français reprennent les génériques japonais. Et se contentent de faire de nouvelles paroles en français.
Tu sens
la différence tout de suite entre, par exemple... le générique de Goldorak tel qu'on le connaît musicalement et le générique des Chevaliers du Zodiaque de Bernard Minet.
Oui, alors malheureusement on a eu aussi il y a eu beaucoup de génériques différents.
Il y a eu beaucoup de génériques différents
pour Goldorak et...
là où le Japon est vraiment resté sur un générique mais c'est pas grave, on a quand même eu le bon à un moment, c'est tout ce qui compte.
Oui. Bon bah on parle et puis pendant ce temps-là, l'air de rien, Evangelion a marqué le troisième point et...
C'est très subjectif.
Le point du plus beau.
C'est très subjectif.
Alors quand
mais
on
je
dit plus
pas...
beau, on parle de la qualité d'animation, de
en même
ce point
de
vue-là.
Et... C'est un peu cruel de juger la qualité d'animation entre une série de 75 et une série de 95. Mais
de toute façon, c'est cruel de les faire s'affronter.
C'est le but.
On est là pour être cruel.
On a envie de voir des morts, on a envie que vous ragiez dans les commentaires.
Et puis Evangelion, c'est cruel, de toute façon.
Evangelion, c'est cruel. Mais je ne peux pas rester insensible aux propositions extrêmes de Hanno, étant donné que j'adore ce que fait ce réal. Enfin, on parlait de Shin Godzilla. Quel monument. Moi qui suis un fan de Godzilla, quel film extraordinaire. Là où Nagai, qui est un mec extrêmement talentueux aussi, il a quand même été pas mal contraint aussi par la Toei et par Poppy, donc la succursale de Bandai qui fabriquait les jouets, pour rester dans quelque chose d'assez bankable. Il avait pas forcément, il a réussi franchement à trouver de l'espace pour des thématiques, pour parler de la place du Japon dans les relations internationales post World War II, ce genre de choses. Mais forcément, il avait pas la même liberté que Hanno au moment d'Eva.
Je pense qu'il intéressait plus Gonagai, c'était plutôt les robots de femmes qui avaient des missiles dans les seins.
Les Opai,
ça l'intéressait vachement, ça.
Les légendaires Opai Missile, parce que c'était les années 70, tout était possible. Et c'est une drôle de page de l'histoire du super robot.
Parce que je fais une petite parenthèse sur Gonagai, parce que les gens, si vous connaissez peut-être Goldorak, mais si vous le savez pas, Gonagai, c'est quand même un sacré petit polisson.
C'est l'un des, des acteurs les plus importants de l'histoire du manga moderne et de la Japanime moderne. En fait, hein. Moi je mets peut-être juste un demi-ton en dessous Tezuka,
mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement c'est très cul.
Enfin, il a fait Cutie Oni, qui était vraiment l'une des premières super-héroïnes, l'une des premières magical girls, mais qui était très érotique dans le ton. Il a fait à l'inverse Devilman, qui est l'un des mangas, toujours aujourd'hui, l'un des mangas les plus nihilistes qui soit. Donc, vraiment, tout ce qui est violence et sexualité, ou même sexualisation en l'occurrence, c'est plutôt à lui que vous le devez. Et du coup, forcément, s'il n'y avait pas eu Nagai, il n'y aurait pas eu Eva.
C'est pas lui qui a fait Keiko Kamen, ou c'est quelqu'un d'autre?
Keiko Kamen, si, c'est lui, ouais c'est ça. À la base, c'était une blague à destination de son éditeur, sauf que l'éditeur, il a fait « Ah, c'est génial, je t'achète !»
Donc Keiko Kamen, c'était une super-héroïne qui
combattait nue. Voilà. Tout ce qu'elle portait, c'était une écharpe et un masque un peu chelou, et elle se battait contre des lycéens pervers, enfin contre des mecs pervers qui venaient embêter des lycéennes, pardon.
Voilà, pour vous dire un peu ce qu'aime Gonagai dans la vie.
Pour vous dire un peu ce qu'aime son éditeur, quoi.
Aussi, oui. Les planitrons sont tombés. Oh putain, Goldorak est mort. Impossible de leur démarrer. Oh là là, Goldorak est mort. C'est sûr, mon père, il va me tuer. Il faut que j'arrive à joindre le corps. Je crois que le Delco est pété. Allez, des couilles, je suis prince de fort. Je vais quand même pas me mettre à chialer. Bon, allez, 3-1, donc Evangelion a remporté le match, mais il nous reste quand même un point pour le sport, on va aller au bout de l'affrontement.
Aller au bout du concept.
C'est une question toute bête, hein, c'est qui gagnerait dans un combat?
Donc là, j'ai pas le droit de te répondre aucun des deux parce qu'aucun n'aurait envie de se battre?
Tu peux me le répondre, mais je te dirais, d'accord, mais mettons que quand même ils se battent.
Mais que quand même ils se tapent dessus. Mettons, on met Koji Kabuto dans le Goldorak, et on met une demi-plug dans l'Eva pour qu'elle soit en automatique.
Alors, ceci dit, les Evas se foutent sur la gueule les uns les autres à certains moments de l'histoire, donc après tout, on pourrait imaginer qu'il y a un plot twist qui les oblige à se battre.
Imaginons, oui, mais en plus, oui. Ben, surtout dans les films récents, ils aiment bien se mettre sur la tronche. Mais concrètement... C'est ce que je dis toujours, c'est que Goldorak, il a ce mérite, c'est que sa puissance et sa résistance sont constants. Constantes. Et là où l'Eva, sa puissance, déjà, elle dépend beaucoup de l'état mental du pilote. Et ce qu'on l'a pas dit, c'est que comme c'est un être surnaturel qui dispose de pouvoir sous l'armure, il faut pouvoir alimenter ça. D'où le gros point faible de l'Eva, qui est qu'elle est tout le temps branchée. En fait, elle se trimballe tout le temps avec un immense câble qui est branché en haut de son dos. Et si ce câble lâche ou est détruit, elle dispose entre 1 à 5 minutes d'autonomie. Et donc là, forcément, ça devient plus délicat de remporter la bataille. Donc, en termes d'endurance, il y a forcément un moment où Goldorak finit par l'emporter. Il a beau faire 30 mètres de moins, et encore 30 mètres de moins, ça c'est quand la série... C'est quand Evangelion a décidé que l'Eva ferait bel et bien 75 mètres, parce que sinon, selon les plans, peut-être que ça pouvait varier. Elle oscillait en fait entre 40 et 75, hein, un truc
d'accord.
Comme ça. Mais de façon générale, oui, officiellement, elle fait 75.
D'accord.
Mais malgré ça, oui, je pense que Goldorak l'emporte. L'Eva a beau être surnaturelle, elle est quand même contrainte par une technologie humaine qui la bride. Là où Goldorak, c'est un mecha qui vient d'ailleurs, donc ce qui légitime en plus le côté, il est vraiment très puissant et on ne sait pas jusqu'à où. Et même aujourd'hui, ça reste l'un des mechas les plus puissants créés par Gonagai, l'autre étant Mazin Kaiser, qui est le vrai, entre guillemets, Mazinger 3, donc une continuité parallèle à Goldorak, d'où cette question de est-ce que Goldorak est canon ou pas. Le fameux débat qui continuera encore longtemps.
Oui.
Mais moi, j'ai quand même envie de donner la victoire à Goldorak pour toutes ces raisons.
Je suis d'accord. Et puis, Goldorak, sur les 72 épisodes, se fait à peine égratigner. Bon, il y a un épisode où il se fait arracher un bras.
Voilà.
C'est le seul moment où ça craint un peu.
Alors que l'Eva, dès le premier épisode, elle se fait casser le bras.
Ouais.
Casser le bras et elle se fait transpercer le crâne.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on n'a pas dit d'ailleurs. Hein. C'est tout bête. Mais comme il y a un pilotage mental entre entre Shinji et l'Eva, c'est ça qui accentue le traumatisme, c'est que Shinji ressent la douleur de l'Eva.
Ouais.
Quand on vous dit que c'est une série hyper malsaine, ça va aussi sur des choses comme ça.
Avec Tarus, il y a deux, trois fois, il fait « Ah, ma blessure, ma vieille blessure, j'ai mal !»
C'est ça, sa blessure qui guérit miraculeusement à 5 épisodes de la fin.
Ouais.
Parce que finalement, non, en faire un héros tragique qui meurt d'une radiation... il meurt enfin, c'est ça, en plus, c'était une blessure liée à des radiations, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, bah oui.
Hein, Seconde Guerre mondiale, tout bah ça, il y a des plans de bombes atomiques.
En plus, je crois qu'il y avait déjà un pilote qui était mort dans l'épisode de Great Mazinger, non, qui est mort dans le manga, je crois.
Non, il est pas mort puisqu'on le retrouve dans un crossover. Il y a un des pilotes du premier Gator Robot qui meurt, tragiquement, et c'est juste au moment de passer à Gator Robot G. C'est bête, hein, il a loupé de peu le nouveau robot.
Bon, donc ouais, Goldorak indestructible, Goldorak qui ne fonctionne pas sur
Goldorak
sur
héroïque.
Secteur.
Goldorak héroïque parce que ben il est fait pour ça.
Voilà.
Et Evangelion ben qui meurt tragiquement parce que elle est faite pour ça.
C'est ça, c'est un beau résumé. C'est un beau résumé.
Tout le monde meurt.
Donc, Evangelion remporte ce combat, mais Goldorak n'a pas démérité.
Goldorak ne déméritera jamais, de toute façon, parce qu'il fait partie de la grande famille Nagai, et ça n'a pas de prix.
Tout à fait. Vous pouvez venir nous dire sur les réseaux sociaux si, selon vous, Goldorak méritait de gagner ce combat ou si on a bien fait d'attribuer la victoire finale à Evangelion. Au-delà de tout ça, on espère que vous avez appris des choses, que ça vous a amusé et diverti, et puis que ça vous a donné envie peut-être de découvrir l'une et l'autre série un peu plus, si vous la connaissiez pas, ou d'autres travaux de Gonagai. J'en entends déjà qui sont en train de googler Keiko Kamen. Et voilà. Merci Antoine.
Bah écoute, merci à toi, c'était très chouette.
Bah oui, c'était très sympathique. Et puis je pense qu'on va se retrouver prochainement pour reparler d'autres merveilles venues du Japon.
Ah, s'il y a du robot géant, moi je signe tout de suite.
D'ici là, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Bah tu peux me retrouver sur un certain réseau social avec un petit oiseau bleu en mascotte.
Je vois de quoi tu parles.
Avec un @N6, E-N-S-I-S, avec des underscores sur les côtés, ça marche mieux. Et puis voilà.
Très bien.
En attendant de nouvelles aventures.
Très bien. Eh bien écoutez, on vous laisse à vos visionnages de séries de super robots et on vous donne rendez-vous très bientôt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.